On?
0,5.
Alors on est bon. Yofi, alors Erev les Koulam, et on revient dans notre étude de Perek Chelek, du donc dernier chapitre de Maseret Sanhedrin, qui nous parle de notre relation, enfin des fondements de la Emouna et de notre relation avec l'éternité, de notre relation avec le divin. Attends, je vérifie un truc. Hop là. Non, c'est pas une bonne idée ce que je viens de faire. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Yofi, ça c'est mieux comme ça. Donc, de notre relation avec le divin, les amis. Et donc, on avait commencé la semaine dernière. On a d'abord introduit qu'est-ce qu'il s'agit de quoi s'agit-il? C'est quoi l'ambiance du Perek Chelek, la Haggadot du Olam Haba? Et on avait commencé la première Mishnah. La première Mishnah qui nous avait expliqué, eh bien, on va dire la base de notre enseignement, en disant que Kol Israël, Eshlaem Chelek, Leolam Abba, Sheneemar, Vamer Kulam Tzadikim, Leolam Yirshu, Aretz, Licha, Netzer, Matai, Maase, Yadai, Leitper. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et on avait expliqué la différence entre avoir Chelek, Leolam Abba, ou alors être Ben, Leolam Abba. Qu'est-ce que c'est, Bichlal, Leolam Abba? On avait posé les bases. Maintenant qu'on a posé les bases, eh bien, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Et donc, on va essayer aujourd'hui de terminer la première Mishnah du Perek Chelek. Et la première Mishnah, en fait, se décompose en deux parties. Celle qu'on a étudiée la semaine dernière, qui parle justement donc de ceux qui ont part ou pas, ceux qui ont part au monde futur. Et la Mishnah continue en nous disant, en nous parlant de ceux qui n'ont pas part au monde futur. Alors, je vais simplement lire la Mishnah et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la Mishnah nous a dit Kol Israël Eshlaem Chelek Leolam Haba, Sheneemar Ve'amer Kulam Tzadikim Leolam Yirshu Aretz Yetzer Matai Maase Adai Leitpa'er. Et elle continue en disant Ve'elu She'ein Lahem Chelek Leolam Haba. Ah, ça aussi on a expliqué la semaine dernière. La Mishnah a dit que tout le monde a part et après elle nous dit voilà ceux qui n'ont pas part. Ah, je comprends pas. Et on nous a expliqué, non, non, c'est-à-dire le Harizal nous a expliqué que c'est pour nous dire qu'au final, tout le monde doit avoir part et que tout le monde doit rentrer dans le jeu, dans l'équipe, même si ça doit prendre du temps. Mais là, on va se concentrer sur, ok, mais c'est qui ces gens-là qu'on a exclus, a priori, du Olam Haba? Enfin, pour être quand même quelqu'un qui n'a pas part au Olam Haba, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait quelque chose quand même de très très violent. Eh bien, on dit comme ça. Velu she'en lahem chelek le'olam haba, ha'omer en techiyat ha'metim min ha'Torah, ve'en Torah min ha'shamayim, ve'apikoros. Ce sont les trois personnages qui sont mentionnés directement par la Mishnah. Rabbi Akiva, Omer, Rabbi Akiva va rajouter des personnages qui, eux non plus, n'ont pas part au monde futur. Il dit, Af akore basfarim achitzonim, celui qui lit dans les sfarim achitzonim, ave alochesh al hamaka veomer kol hamachala asher samti bemitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. On va expliquer ce que c'est exactement. Ve'aba Shaul omer, af ahoge et Hashem beotiotav, celui qui épelle le nom de Dieu. Donc ça c'est la Mishnah. Maintenant il va falloir qu'on essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est ça la Mishnah qui ouvre notre explication sur la relation avec l'éternité? C'est moi ça? Non, c'est bon? Ok. Très bien. Alors allons-y. Quand on parle de Emouna dans le peuple juif, des bases de la Emouna, eh bien, faut se poser comme question la chose suivante. Quels sont les fondements de la Emouna d'Israël? Comment est-ce qu'on pourrait résumer toute la Emouna du peuple juif? J'ai une bonne question. Imaginez, vous rencontrez un jour, je sais pas, imagine quelqu'un qui travaille dans l'énergie et qui va souvent aux États-Unis, et un jour, dans une de ses réunions au fin fond du Texas ou de je ne sais pas où, d'ailleurs, il faudra que je te parle un jour, il faudra que je te raconte. Dans la souka, j'ai mangé un jour avec un couple de Texans. C'était Chavé Coldavar. Mais enfin bon. Imagine un jour, t'es au fin fond de, tu m'as dit.
Comme ils disent là-bas, we will take it offline.
Voilà. Alors, tu m'avais dit, t'as le nom d'un bled où t'avais été la dernière fois, je m'en rappelle plus. Paumé de, hein?
El Paso.
El Paso. Donc voilà, t'arrives à El Paso. Et là, il y a un mec qui connaît pas. T'es le premier juif qu'il voit dans sa vie. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait une grande communauté juive à El Paso. Et il te dit, ok, mais alors, c'est quoi? C'est quoi la émouna du peuple juif? C'est quoi cette foi d'Israël? Comment tu me résumes ça? Eh ben, c'est une bonne question. C'est une bonne question que nous, juifs, on se pose pas souvent. Parce qu'on est tellement dedans qu'on se pose pas vraiment la question, mais ok, mais c'est quoi en fait? Et un des premiers qui s'est posé la question, c'est Rabbeinu Rambam. Le Rambam va écrire justement dans le commentaire qu'il a de cette Mishnah, c'est là qu'il écrit ces fameux Shlosh Esre Ikarim. Les 13 articles de foi, comme ça qu'on traduit en français, du Rambam. Maintenant, il y a les 13 articles de foi du Rambam, bon, c'est Arbe Meod. C'est Arbe Meod, mais une chose est sûre, on va pas aller faire les 13, je vais juste vous demander quel est le premier et quel est le dernier. Eh bien, pour le Rambam, le premier, c'est Metziut Hashem. Sache qu'il y a Dieu. Et ensuite, le dernier, c'est quoi? Triat Hametim. C'est un ordre tout à fait logique. Bah, il y a plein de trucs au milieu, hein, que c'est lui qui a donné la Torah et ainsi de suite, mais c'est un ordre logique. D'abord, tu ouvres le débat en disant Yesh Elohim. C'est le début du débat. Sinon, on parle même pas. Et après, bah, tu expliques ce que Dieu, il peut faire. Et après, à la fin, tu expliques, bah, c'est quoi le truc ultime qu'il peut faire? C'est l'Achayot Metim. Et Guioni. Seulement, lorsqu'on parle de Elou She'en Lahem Chelek Le'olam Haba, tout d'un coup, l'ordre est inversé. Et la Mishnah nous dit, d'abord, à Omer en Triat Hametim. Et ensuite, en Torah Min HaShamayim. Et ensuite, à Apikoros. L'ordre est inversé. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on inverse entre le Talmud et le Rambam? Eh bien, la raison est très simple. Le Rambam parle de la logique, alors que le Talmud parle de la matara. Je m'explique. Pourquoi je commence par « Aomer en Techiat Hametim » Parce qu'en vrai, s'il y a Dieu, mais qu'il n'est pas capable de ressusciter les morts, « Asbishfil Maupo »« As à quoi il sert ?» On se rappelle tous de cette scène fantastique, un pérouche extraordinaire de cette Mishnah-là dans Aladdin. Aladdin, le premier, bien sûr. Lorsque, dans la grotte de la caverne aux merveilles qui s'est refermée sur Aladdin, il se réveille, il est à côté de Abou, son singe, du tapis volant et de sa lampe. Il frotte la lampe, le génie sort, et là, le génie lui dit qu'il peut tout faire, il peut réciter tous, enfin, il peut faire tous les vœux qu'il veut, mais il y a trois choses qu'il peut pas faire, et parmi ce qu'il peut pas faire, il peut pas ressusciter les morts. Et Aladdin a cette remarque fantastique, bah, ça c'est un génie, il peut même pas ressusciter les morts. Et effectivement. Bémet, im akadosh baruch hu lo mechaye metim. Ah, entre des grosses guillemets, il sert à rien.
Maintenant, oui. Je me trompe, où il y avait un dialogue entre Moshe et juste après qu'on ait parachat Yerkecha et akadosh baruch hu, Moshe voulait rentrer en Israël. Et il y a un midrash comme ça qui est très long, où il lui dit, mais je rentrerai même.
Tout à fait.
Et ça s'arrête net au moment où il lui dit, à Kadosh Baruch Hu, il dit, mais moi, je peux résister les morts.
Exactement. Ça s'appelle Midrash Petirat Moshe Rabbeinu. Voilà, Midrash Petirat Moshe Rabbeinu, dans lequel, effectivement, il y a ce grand dialogue entre Dieu et lui. Et effectivement, à la fin, il lui dit, toi, t'as tué l'Égyptien. Et Moshe lui dit, ah oui, mais moi j'ai tué un Égyptien, toi tu les as tous tués dans la mer. Et Dieu lui dit, oui, mais aval bi yesh koach l'achayot, vebecha en lecha koach l'achayot. Non, ferme la porte. Et donc voilà, ouais, effectivement, donc ça montre bien que s'il n'y a pas de Efsharut de Triat Hametim, Je vais même aller plus loin. Si Dieu ne ressuscite pas les morts, ça veut dire que le monde entier est d'un pessimisme incroyable. Parce que ça veut dire que la force la plus importante de ce monde, c'est la mort. Et c'est terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun espoir à rien si tu dis que la force principale de ce monde, c'est la mort. Donc, à Omer, entriatametim minatora, c'est-à-dire que Dieu, il ressuscite pas les morts, Betsem, il a fermé tout espoir de l'avenir. Et ça, c'est absolument terrible. C'est la raison pour laquelle, Rabotai, eh bien, on commence par celui-là. Le premier qui a pas part au monde futur, c'est Omer entriatametim, mais en fait, c'est pas une punition. C'est tout simplement l'expression de la réalité. Im Omer she'entriatametim, as, et il peut pas avoir part au monde futur, qui est l'expression de l'idéal, de l'espoir et de l'éternité. Lui, il pense qu'une fois que tout est mort, bah tout est mort. Donc c'est un vrai problème. Maintenant, les amis, la question qu'on se pose, c'est, c'est-à-dire, Aval Sahakol, il a dit que entriatametim. Pourquoi tu t'excites autant sur lui? Mazé a Omer entriatametim. Bah, Sahakol, il a dit une bêtise. Pour ça, tu vas lui enlever son Olam Haba. L'eau. Quand on dit à Omer, ça ne veut pas dire il l'a dit. Ça veut dire c'est sa phrase. C'est son slogan dans la vie. Quand on dit dans Pirkei Avot, Où aya Omer? À chaque fois qu'il y a un chacham qui parle, on dit Où aya Omer? Mais c'est Où aya Omer? Où aya Mashéou Omer? C'est-à-dire, c'est ça son truc. Donc quand on te dit à Omer enteriat ametim, c'est pas stam il a dit une bêtise. C'est il vit cela. Il vit cette réalité là. Ben c'est l'heure.
Ma femme dit que il y a pas marqué ici où aya Omer.
Non. Non, j'ai dit dans la Mishnah dans la Avot. Non, dans la Mishnah dans Pirkei Avot, il y a marqué où aya Omer très souvent.
Alors, comme quoi c'est pas le slogan de la personne qui dit enteriat ametim
Non, mais c'est pareil. C'est pareil. Quand on te dit, Ouaya Omer, ou alors, Ah Omer, c'est-à-dire, ou Omer. Lui, alors, là-bas dans Pirkei Avot, c'est plus facile à comprendre. On te dit, Ouaya, Mashe ou Omer, parce qu'on parle au passé. Mais là, on te dit, Ah Omer et Zé. Il vit comme ça. C'est sa vie. Il dit ça tous les jours. Il le vit. Il le ressent tout le temps. C'est-à-dire, donc, Ah Omer, Enteriat Ametin, Minatora, eh bien, il a perdu tout optimisme dans la vie. Et ça, c'est absolument terrible. C'est-à-dire, Yesh, Sheela, Kushia Gdola. Vous rappelez la Kushia de Rashi, la première Kushia de Rashi de toute la Torah. Il a marqué Bereshit, Bara Elohim, et Tachamayim, et Taharet. C'est la Rashi, il dit, pourquoi il a commencé par Bereshit? Il aurait dû commencer par Achodesh Azelachem. Ma stomeret. Il aurait dû commencer par. Qu'est-ce que c'est que cette chutzpa fantastique de dire « Moi, je sais par quoi ça aurait dû commencer. » Ça, c'est la chutzpa du juif. Parce qu'on va lui donner la Torah. Et il sait, le juif, que la Torah lui parle à lui. Et donc, il dit « Moi, je sais ce qu'il faut qu'il y ait marqué dans la Torah. » Et qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait marqué ?« Achodesh azelachem rosh chodashim shi yamitzvah rishona. » Et en cela, il y a une dissonance terrible entre le judaïsme et le monde des yeshivot. Je m'explique. Dans le monde des yeshivot, quand on étudie la Gemara, il y a une phrase qu'on n'a pas le droit, une question qu'on n'a pas le droit de poser. La question c'est Vema halakha. Ça, tu sais bien que quand on étudie du pilpoul de Gemara, on s'en fiche de savoir c'est quoi la halakha. On veut rester dans le pilpoul. Mais en vrai, quand tu regardes et que tu étudies la Gemara, qu'est-ce qu'elle pose comme question tout le temps, la Gemara? Umay nafkamina. Umay nafkamina, ça veut dire quoi? Ben, c'est quoi la... Ok, ce que tu me dis, c'est sympa, mais ça amène à quoi? Ça débouche à quoi? Quelle est la répercussion de l'action concrète de ce que tu es en train de me dire? Eh bien, en fait, c'est exactement de cela qu'on parle, les amis. Haomer en Techiat Ametim, c'est celui qui dit il n'y a pas de répercussions concrètes sur le fait qu'il y a Dieu. En Triat Ametim la Torah, quand tu meurs, et c'est la fin de l'histoire, il n'y a plus rien à dire. Et ben ça, c'est terrible. C'est tout simplement terrible.
Parce qu'il y a quoi après Triat Ametim ?
Il y a quoi après Triat Ametim ? Yesh Bila Amavet la Netzach. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la mort.
Ouais, mais c'est-à-dire, bah, qu'est-ce qui se passe concrètement ? C'est-à-dire, on vit tous et on est tous là, quoi. C'est-à-dire, c'est. Et puis rien ne change. C'est-à-dire, qu'est-ce que concrètement ?
Sheela li elecha. On entre. Je te pose la question pour.
C'est
Non, mais tu sais bien que. Oui, mais Rabbi Yaakov nous a enseigné qu'un juif, il répond toujours par une autre question. Donc, moi, je suis fidèle à Rabbi Yaakov et son Sachavruta, Rabbi Sliman. Et donc, je réponds à ta question par une autre question. Tu dis, ah, il y a quoi, Triat Ametim, on va être tous là, qu'est-ce qui va se passer, comment c'est, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je te réponds à la chose suivante. Shnia, Triat Ametim, la Mazechashuv Bichlal. J'ai dit, parce que ça veut dire que c'est de l'optimisme, ça veut dire que la vie est plus forte que la mort. En vérité, c'est quoi Triat Ametim? Alors, il y a évidemment Triat Ametim de Triat Ametim pour de vrai, mais il y a tout ce qui me rattache à la vie, qui me fait puiser ma réalité dans la source de vie, c'est Triat Ametim. Par exemple, Triat Ametim, c'est bizarre. On nous dit que tous les Amoraïm, ils étaient capables de la Hayot Metim. Et d'ailleurs, si tu fais bien attention, la phrase de la Mishnah, c'est En Triat Ametim Minatora. Disait Manitou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout celui qui a une Torah qui n'est pas capable de la Hayot Metim, En Lochelek Lolamaba. C'est quoi une Torah qui est capable de la Hayot Metim? Ben, c'est très simple. Nous dit, c'est qui a dit ça? Oh là 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 là. Je crois que c'est Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, mais je suis pas sûr, qui avait dit cette phrase, mais qui est très vraie. Il dit, puisque tzadikim, afilu bechayem nikraim chayim, nikraim chayim, verechayim, afilu bechayem nikraim metim. Puisque les tzadikim, même dans leur mort, ils sont appelés vivants, et que les rechayim, même dans leur vivant, ils sont appelés morts, donc c'est quoi? Triat Ametim, c'est l'arzir oto bitchouva. L'arzir et arasha bitchouva, c'est l'achayot oto. C'est le ressuscité. Donc, celui qui dit en Triat Ametim in a Torah, c'est-à-dire que sa Torah, elle n'est pas capable de lui faire tchouva. Alors, à quoi ça sert sa Torah? Maintenant, de manière plus concrète pour répondre à ta question, qu'est-ce qui se passe quand il y a Triat Ametim? Alors, si c'est une Triat Ametim, baolamazé, bah, très bien, tout le monde revient à Kadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que c'est The Triat Ametim? Eh bien, c'est la victoire de la vie. Comment ça marche après? L'Odéa. On va devoir continuer à étudier le chapitre pour savoir. Mais dans un premier temps, ça veut dire que c'est la victoire totale de la vie sur la mort. C'est-à-dire, c'est la première chose. Donc, on a dit « Aomer en Triat Ametim in a Torah ». Le deuxième Icar, c'est lequel? Ze Aomer en Torah min ha-shamayim. Celui-là non plus, en lo chelek l'olam haba. Ma ze Aomer en Torah min ha-shamayim. Dans les 13 attributs, Icaré et Mouna du Rambam, on a dit 13, c'est bien, mais c'est trop. Donc après le Rambam, il y a plein de rabbins qui ont essayé de limiter les Shlosh Esrei Ikarim. Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, il en écrira 10 et pas 13. Et Rabbeinu Chisdai Kreskas, il va écrire finalement qu'il y en a 6. Besefer Ikarim. Et finalement, son élève, Rabbi Chisdai, qui s'appelle Rabbi Yosef Albo, il va écrire un livre qui s'appelle Or Hashem. Et là-bas, Rabbeinu Chisdai, il écrit dans Or Hashem 6. Et Rabbi Yosef Albo, il écrit dans Sefer HaIkarim 3. C'est-à-dire, donc pour Rabbi Yosef Albo, il n'y a que trois Ikarim du judaïsme, trois principes de base du judaïsme, qui sont Metziut Hashem, Sachar Veonesh, Vetorah Min HaShamayim. Et quand on va regarder encore plus loin, en fait, Metziut Hashem et Sachar Veonesh, c'est pas vraiment les Ikarim du judaïsme, puisque Metziut Hashem, on sait pas ce que c'est. L'essence de Dieu, on sait pas ce que c'est. Sachar Veonesh, punition, récompense, ou alors cause, conséquence, c'est une réalité du monde, ce n'est pas une réalité que du judaïsme. Donc il ne reste que le Ikar de base de tout le judaïsme, c'est Torah Min HaShamayim. En d'autres termes, si Dieu nous a parlé, alors Yesh Mashmaout, la Torah. Si Dieu ne nous a pas parlé, En Mashmaout, la Torah. Vous n'avez pas shoot. Donc si Torah Min HaShamayim, tout le judaïsme y tient, si le Torah est l'homme Min HaShamayim, alors le judaïsme y tient plus. Ça a l'air pas shoot. Pas shoot, méod. Donc, très bien. Ça veut dire que la base de toute la Torah, c'est de savoir est-ce qu'elle vient. Elle vient Min HaShamayim ou pas. Maintenant, la question que je pose, et ça, c'est une question qui est fondamentale. Torah Min HaShamayim, aval me'eze shamayim. Maze Omer, en Torah Min HaShamayim. De quel Shamaïm est-on en train de parler? Qu'est-ce que cela veut dire? Me'elu Shamaïm magia Torah. Alors, il y a un livre peu connu du Rav Kook qui s'appelle Orot à Emouna. Alors, on connaît Orot, on connaît Orot à Kodesh, Orot à Tshuva, Orot à Torah. En fait, tous les Orot qu'on connaît qui sont dans les livres blancs ont été mis en page soit par le fils du Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda, ou alors par son élève, le Rav Anazir. Entre parenthèses, ce Shabbat, je vous fais une petite digression cadeau, voilà, parce qu'on avait fait un cours sur le Rav Anazir entre nous, mais Shabbat, j'ai fait mon cours de Horot, de entre Mincha et Ervit de Shabbat, et donc on a parlé de l'importance de travailler, de l'importance de construire le monde et tout ça. Et quelqu'un qui n'était pas de la synagogue, qui était certainement invité dans le quartier pendant Shabbat et qui est venu prier dans notre synagogue et qui est resté au cours, il m'a dit, alors il faut que je te raconte ce qui s'est passé il y a 55 ans. Je dis ok, qu'est-ce qui s'est passé il y a 55 ans? Il dit, bah, il y a 55 ans, j'ai eu une rencontre qui a duré 10 minutes avec le Rav Anazir et qui a changé ma vie. J'ai été voir le Rav Anazir et je lui ai demandé, est-ce qu'il vaut mieux que j'aille à la yeshiva ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille à la universita? Il dit, j'avais 20 ans à l'époque, j'étais un kibboutznik dati, mais kibboutznik. Qu'est-ce que je dois faire? Et il m'a dit que le Rav Anazir l'a regardé longtemps, s'est assis avec lui et lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait étudier. Il dit, bah, j'aimerais étudier comment ça marche, comment la nature elle marche. Je voudrais savoir la force la force hydraulique. J'aurais étudié comment est-ce que le Zerem HaMaim, il peut aller de haut en bas et il peut amener une force et il peut faire tout un écosystème. Et le Rav Anazir, il lui dit, attache Oel. Tu demandes, est-ce que tu dois étudier la Torah ou est-ce que tu dois étudier les secrets de la Torah? À la Yeshiva, on étudie la Torah. Toi, tu veux aller étudier les secrets de la Torah. Pshita qu'il faut aller étudier les secrets de la Torah. Vegam pshita qu'il faut étudier la Torah. Donc, barour que tu dois aller à l'université. Ve barour qu'à l'université, tu dois jamais arrêter d'étudier la Torah aussi. Alors ça, c'était l'anecdote. Et je lui ai dit, au monsieur, je lui ai dit, vous savez que c'est exactement ce qu'a dit le Hafetz Chaim au Nazir. Quand le Nazir lui a dit qu'il voulait aller à l'université, le Hafetz Chaim n'était pas content, mais il lui a dit, bon, bah, alors si déjà t'y vas, tu n'oublies jamais d'étudier avec toi Maseret Menachot. Parce que tu es Kohen, et c'est là-bas qu'on apprend au Kohanim qu'est-ce qu'il doit faire, et il faut que tu sois prêt à tout moment de pouvoir servir au Beth Amikdash. Non? Azé Torah, vezé Torah. Bekitsour, je vous parle de ça parce que ça, ce sont les deux élèves, le Rav Tzuyuda et le Rav Anazir, qui ont mis en place les écrits du Rav Kook. Mais il avait un autre élève qui s'appelait le Rav Moshe Gourevitch. Beaucoup moins connu parce que finalement, il est parti d'Israël, il est parti aux États-Unis et il est devenu un petit peu charedi sur les bords. Et Moshe Gourevitch, Rav Moshe Gourevitch, il a quand même jamais abandonné les enseignements de son maître, le Rav Kook. Et donc, il a dit, toutes les passages que le Rav Tzvi Yehuda et que le Rav Anazir, ils ont mis en place dans les livres, c'est très bien, j'y touche pas. Mais moi, je vais m'occuper de tous les passages qu'ils ont pas mis dans les livres. Et je vais les mettre dans un autre livre qui va s'appeler Orot à Emouna. Et donc, dans le livre Orot à Emouna, nous dit le Rav Kook la chose suivante. Yesh kfira shei ke odaa. Veoda shei ke kfira. Dans les dîners mamonotes, dans les lois sur les litiges commerciaux, il y a le concept de kfira bataana, c'est-à-dire je rejette, je nie en bloc ce qu'on me dit. Et il y a l'autre côté, c'est oda, c'est je reconnais ce qu'on dit. Donc il dit yesh lifamim oda shei ke kfira ve kfira shei ke oda. Ça veut dire quoi? Ketzad mode adam sha torah min hashamayim. Il dit le Rav Kook. Il dit, il y a des gens qui disent, oui, la Torah, elle est min ha-shamayim. Aval otam ha-shamayim mitztayrim etzlo betzurot kol kach meshunot ad shelo nishar ba min ha-emunah amitit meuma. Il y a des gens qui disent, moi, je suis ma'amin ba Torah min ha-shamayim, je suis ma'amin ba Mashiach, je suis ma'amin dans tout ce que tu veux. Et quand tu leur demandes et que tu grattes un peu et que c'est quoi pour eux leur représentation de Mashiach, ha-shamayim, Geoula, ce que tu veux, ils te disent des choses qui sont tellement meshunot, genre tellement pas juive, que l'onichar ba shum davar mina emuna. En d'autres termes, il y a des gens qui te disent qu'ils sont religieux et qui ont foi, une foi, mais ils ont foi en quoi? En des bêtises. Ah, donc si c'est comme ça, ve, c'est mamash oda, sheik et kfira. Tu reconnais que tu es ma'amin dans une bêtise. C'est terrible. D'un autre côté, yesh kfira, sheik et oda, ketsad. Kofer Adam batora min hashamayim. Il dit, moi, je crois pas que la Torah vient de min hashamayim. Aval kfirato meyusedet rak alota aklita shekalat min hatziur shel tzurat hashamayim asher bemochot ameleim machshavot hevel vetohu. Il dit, oui, il dit qu'il croit pas que la Torah est min hashamayim. Mais quand tu grattes et que tu demandes, mais c'est quoi pour toi min hashamayim? Eh ben, tu te rends compte que ceux qui croient ce qu'ils croient être shamayim, Zeshtoyot. Donc, c'est très bien qu'ils ne croient pas que la Torah elle vienne de là-bas. C'est clair? Veu omer a Torah yeshla makor yoter na'ale mize. U matril limtso yesoda migdulat ruach ha'adam me omek ha'musar ve rum ha'chokhma shelo. Donc, c'est très très bien. Il faut arriver à une vraie dimension. Alors, c'est pas shoot. Ainsi, nous dit le Rav Kook, אף על פי שעדיין לא הגיע בזה למרכז האמת. Il n'a pas encore fini son processus, ce mec-là. מכל מקום, כפירה זו כהודעה היא חשובה, והיא הולכת ומתקרבת להודעת אמונת אומן. ודור תהפוכות כזה הוא נדרש גם, כן, למעליותה. Il dit, notre génération, elle est exactement là-dedans. Elle est en disant, voilà, j'y crois pas, moi, à ta Torah, mais quand tu regardes dans quelle Torah il croit pas, ben moi non plus, j'y crois pas. C'est-à-dire? Donc, c'est de cela qu'on parle quand on te dit En Torah min hashamayim. Alors, à Omer En Torah min hashamayim, est-ce qu'il est dans ce cas-là? Et à ce moment-là, Kol HaKavod, et ça va être très facile de le ramener dans l'histoire. Ou alors, pour lui, il a un vrai tziyur de shamayim. Et celui qui a un vrai tziyur de shamayim, amiti. Ve Omer En Torah min hashamayim. אז ברור שאין לו חלק לעולם הבא. Il en veut pas du olam haba. Ce mec là, il en veut pas du olam haba. Puisqu'il a rejeté l'idée, hein?
Shamayim, quand on dit en Torah min hashamayim, shamayim c'est Dieu quoi, c'est-à-dire c'est ça.
C'est l'unité des valeurs. Comme Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz. Ze otam shamayim. Quand nos sages nous expliquent que shamayim, Hein?
C'est celui qui dit quoi ou à quoi il faut penser, quoi.
Alors on a dit, à Omer en Torah min haShamayim, en Torah min haShamayim, on a dit, soit c'est le mec, comme on a dit dans Rota Emuna, qui dit ça, mais en fait, quand tu grattes, on se rend compte que bah, c'est Bessader Gamour ce qu'il dit. Donc lui, il a Bevadaï Chelek le Olamaba. Mais celui qui Behemet, Omer en Torah min haShamayim, et il sait ce que c'est Shamayim, et je dis, Shamayim, c'est le Shamayim de la création. De Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Et nos sages vont nous dire, Mazé Shamayim, Zé Esh Umayim, c'est-à-dire l'unité des valeurs. Celui qui pense que la Torah ne vient pas de l'unité des valeurs, Asbehemet, l'homme a gué à l'Olamaba. Il n'en veut pas non plus. Puisque Olamaba, c'est de ça qu'on parle. C'est de cette unité-là des valeurs. Donc c'est à l'extérieur de son monde, de son univers. D'accord? Et enfin, le troisième de l'histoire, c'est qui? Va Apikoros. Top. Alors Apikoros, c'est évidemment à mettre en relation avec Monsieur Apikoros ou Épicure en français, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire les Épicuriens étaient, oui, des gens qui avaient rejeté la dimension du divin, mais qui étaient plus dans le kiff de l'instant. Apikoros, c'est celui qui a, c'est ce qu'on va traduire par le terme athée. Celui qui n'est pas anti-Dieu, mais qui rejette Bichlal l'idée de Dieu. C'est-à-dire, Zahapikoyos. La Sheela, la question divine, n'existe pas. Ok? Caché Meod, Meod, pour un juif, d'être Apikoros. Meod, Meod, caché. C'est exactement l'histoire de ce mec qui est petit-fils de rabbin, mais qui a tout lâché. Et qui est parti en Chutz La'aretz vivre à Berlin, et il envoie ses écoles, ses enfants dans une école non juive, ce que tu veux. Évidemment, il veut oublier tout signe juif. Et un jour, ses enfants, ils reviennent de l'école, et il dit à son fils, alors qu'est-ce que vous avez étudié? Et le fils, il dit, bah voilà, aujourd'hui, on a parlé de la religion chrétienne, et on a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, l'Israélien qui a tout rejeté, il dit, sache que c'est des bêtises qu'on t'a enseignées à l'école. Il y a un seul Dieu et c'est en lui qu'on ne croit pas. C'est caché pour un juif d'être apikoros pour de vrai. C'est-à-dire, yesh kofer shehu ma'amin behemet, v'yesh ma'amin shehu behemet kofer. C'est pas pachout cette histoire. Mais en vérité, quand on regarde dans Maseret Sota, on nous raconte une histoire là-bas qui est quand même très forte pour nous expliquer ce que c'est la kfira d'un juif. La kfira d'un juif, c'est pas tant de dire il n'y a pas de Dieu, mais c'est de ne pas reconnaître Maaseh Hashem. C'est quand quelqu'un, il est face au dévoilement divin et il n'arrive pas à le reconnaître, ou il veut pas le reconnaître. Maseret Sota nous explique la chose suivante à la page 48. On nous raconte là-bas ce qui s'est passé à la bnia du Bayit Sheni, lorsqu'il y a eu la construction du deuxième temple. Maintenant, faut bien s'imaginer, la construction du deuxième temple, quand on commence à reconstruire, il y a des gens qui avaient déjà, qui étaient encore en vie et qui avaient vu le premier temple. C'est 70 ans après. Donc, imagine-toi un mec qui avait, je sais pas moi, 10, 15 ans au moment de Khurban HaBayit HaRishon, bah, il a 80, 90 ans, il est peut-être toujours en vie et il voit ce qui se passe. Et donc, on nous dit la chose suivante. Verabim, c'est-à-dire, Kohanim, Valevim, Verasha, Avot, Azekenim, Asher Raou, et Abayit Arishon. Je vous cite des versets de Ezra, dans le chapitre 3. Il dit, il y a plein de gens qui étaient là, qui avaient vu le premier temple. Beyasdo, Ze, Abayit, Benhem, Bochim, Bekol, Gadol. Je sais pas si on imagine l'ambiance. T'as des mecs, on est en train de construire le Beth Amikdash, et ils sont en larmes. Non, non, ils sont pas en larmes de joie. Ils sont en larmes de deuil. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le premier Beth Amikdash. Ils ont vu la grandeur du Bayit Rishon, et ils voient la petitesse du Bayit Sheni. Et donc, Mbochim, Bochim Bekol Gadol, ורבים בתרועה בשמחה להרים קול, ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מריעים תרועה גדולה, והכל נשמע עד למרחוק. D'un autre côté, les gens qui n'ont pas vu tout ça, eux, ils sont très contents. Et les pleurs de joie et les pleurs de tristesse se mélangent. Nounou, à propos de ce verset-là, nous dit le Talmud, Mi baz le yom ktanot. C'est un autre verset de Ezra. Mais le Talmud va expliquer. Mazé, mi baz le yom ktanot. Mi garam la tzadikim sheit basbez shulchanam leatid lavo. Il y a des tzadikim qui rejettent Yom Ktanot parce qu'ils disent que le deuxième temple il est plus petit et moins méfoire que le premier. Alors ils pensent pas que on est en train de vivre une Geoula quand on reconstruit le deuxième Beth Amikdash parce qu'ils avaient une attente qui n'était pas la bonne selon eux. Eh bien ces gens-là se sont eux-mêmes éloignés de la table du Olam Haba. Donc c'est ça celui qui est Apikoros. C'est, oui, il y a le laté, bien sûr, mais il y a aussi celui qui a tout simplement rejeté le dévoilement divin parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'il aurait voulu qu'il ressemble. Ça a l'air ? Hein ?
C'est très large comme définition d'apikoros, parce que ça veut dire que tout celui qui n'est pas de Hakaratatov envers Akadoshbaroukh, il est en quelque sorte apikoros.
Celui qui n'a pas de Hakaratatov, d'accord ? Tu as tout à fait raison.
Mais je pense qu'on a tous passé des Hakaratatov envers
Akadoshbaroukh. Non, il y a une différence entre je manque peut-être un petit peu de Hakaratatov, vani kofer batova. C'est ma choix rare. Et puis il y a surtout le mec qui ne connaît pas. Il y a le mec qui ne sait pas que ça vient de lui ou que ça ne vient pas de lui. Mais là, on parle justement des Talmidei Chachamim qui n'arrivent pas à voir la main de Dieu dans ce qui est en train de se passer. C'est différent. Il y a une différence entre le mec qui est fait témoin d'un truc énorme mais il se rend pas compte de qui lui donne le truc énorme et à quelqu'un qui voit un truc énorme et qui dit non, c'est Katan. C'est pas la même chose. Donc ça, c'est les trois premiers donc qui sont mentionnés en disant Elem, Chelek, Leolam Haba. Ok ? Maintenant, Yesh Mashu Acher, Rabbi Akiva à rajouter des gens dans la liste de ceux qui n'ont pas part au monde futur. Mazé, Miché en lochelek l'olam haba, Rabbi Akiva Omer, Afakore basfarim achitsonim. Mazé asfarim achitsonim. C'est quoi les sfarim achitsonim? De quel livre parle-t-on? Eh bien, sfarim achitsonim, vous pouvez m'en donner un exemple? Ouais, non, ouais. Pas d'exemple ? Le Talmud va donner des exemples. C'est quoi Sfarim Achitsonim ? Par exemple, Sefer Ben Sira. Chanoch, Yehudit, Ben Lahana. Oh, il y en a plusieurs comme ça. Ben non, excusez-moi. C'est grave, celui qui est coré bas Sfarim Achitsonim ? En lo chelek l'olam haba ? Ma kara ? Sefer Ben Sira. On a le droit de lire Sefer Ben Sira? Ou si tu lis Sefer Ben Sira, tu vas ne plus avoir part au monde futur? Ben, je vais vous dire, c'est très simple. Les Chachamim du Talmud citent Ben Sira très souvent dans le Talmud. Donc, s'ils citent Ben Sira, c'est qu'ils ont lu Ben Sira. Et je pense pas que les Chachamim, les Amoraïm et les Tanaïm, en laim chelek l'olam haba. Donc, quel est le problème? Le problème, il est le suivant. Celui qui dit qu'il est coré basfarim achitsonim, ce n'est pas celui qui est coré otam. Il y a une différence entre à coré otam et à coré bahem. Celui qui lit les livres chitsonim, c'est d'ergamon. Pas de problème. Mais celui qui lit dans ses livres, comment chez Korim Batorah, l'ikro B, c'est le langage qu'on réserve à la Torah, El Nochelek Lolam Haba. Lama. Les paroles des Sfarim Chitsonim sont des paroles intéressantes. Ben Sira, je vous l'ai dit, est cité dans le Talmud. Ben Sira était un chacham. Et son livre, il est très, 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 très chacham. Et on peut sortir énormément d'enseignements de Ben Sira. D'ailleurs, le Talmud le fait. Aval Ben Sira, ce n'est pas de la névoie. Ce n'est pas de la prophétie. Et comme ce n'est pas de la prophétie, eh ben, tu peux pas le mettre dans la liste du Tanakh de l'Ikro Bo. Si tu es Koré Be Ben Sira, comme tu es Koré Be Shira Shirim, eh bien, ça veut dire que tu penses que Ben Sira, c'est de la névoie. Ou alors, tu penses que Shira Shirim n'est pas au-dessus de Ben Sira. Et donc, en fait, à Koré Basfarim Achitsonim, c'est celui qui n'arrive pas à faire la différence entre un Sefer de Chochma et un Sefer de névoie. Qui pense que Dvar Hashem, ce n'est rien d'autre qu'une belle, une belle sagesse. Maintenant, en disant ça, Rabbi Akiva, il porte également un jugement très fort sur le christianisme. Parce que le christianisme, c'est eux qui ont rentré les Sfarim Achritsonim dans ce qu'on appelle le canon biblique. Alors, pourquoi les chrétiens, ils ont fait ça? Pourquoi ils ont rentré les Sfarim Achritsonim dans le canon biblique? Ben, c'est très simple. Ils avaient un trou de 500 ans à combler. Entre la fin du Tanakh et l'arrivée de Jésus. Et comme ils voulaient avoir une continuité pour dire que Jésus c'était le successeur, ben, il fallait pas qu'il y ait 500 ans de trou. Donc on a pris tous les Sfarim Achritsonim et les ont mis dans le canon biblique pour combler les manques. Et donc en fait, lorsque Rabbi Akiva dit, Akore Basfarim Achritsonim en lechel, ou gam mitkaven la natsrut. C'est-à-dire, shen lehem chelek leolam abba. Nounou, il a fait merde. Et après, on a qui? Alochesh à la maca. Mazé, alochesh à la maca. Alors, je tiens à dire que, d'après Rabbi Akiva, toutes les mamans du monde, en lehem chelek l'olam abba. Oui, madame. Oui, madame. Oui, c'est à toi que je parle. J'imagine que tu as déjà eu.
Je réapparais, ça a tout quoi.
Ah, c'est ça, hein? Mais toi, t'es un papa, t'es pas une maman. J'imagine que t'as déjà eu un enfant qui est tombé au foot, au vélo, machin, et qui s'est égratigné le coude ou le genou. Et j'imagine, quand il avait entre 5 et 7, 8 ans, qu'il était là en train de dire « Ah, je vais mourir !» Et toi, tu es venu avec un pansement et le bisou magique, et tu lui as dit « T'inquiète pas !» Et tu as parlé au genou, tu as parlé au bobo, tu as dit, mais ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Tu verras, ça va aller mieux. Après le pansement, tout va aller mieux. Et ça marchait en général. Zé alochesh à la maca. Non, mais mette. Non, mazé alochesh à la maca. C'est celui qui dit, bon, il y a un problème. Il y a le mec, il s'est blessé. Et il se met sur la maca et il dit, kol ha-machala asher samti be-mitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. Une incantation d'un verset qui dit que c'est Dieu qui donne la refoua. Et ben voilà, grâce à ça, tu seras guéri. Lama en lo chelek lo lama ba? Pour deux raisons. La première, c'est quoi? Tu crois que la Torah c'est de la magie? Ça y est, t'as réduit la Torah à de la magie? Je vais dire une incantation et c'est ça qui va marcher. Mais c'est surtout le deuxième problème. Ce verset, il a un début. C'est bien beau d'utiliser un verset, mais c'est quoi le début du verset? Le début du verset, c'est quoi? Im shamoa tishma lekol Hashem Elohecha vayashar be'enav ta'aseh ve'azanta lemitzvotav ve'shamarta kol chukav kol ha'machala asher samti be'mitzrayim la'asim alecha ki ani Hashem rofecha. Ce qui veut dire, si tu fais tout ce que je t'ai demandé et que tu suis tous mes commandements, alors à ce moment-là, ce que j'ai fait aux Égyptiens, je ne te le ferai pas à toi, je suis celui qui guérit. Mais ça veut dire que quand on lit le verset en entier, la guérison d'Akadosh Baruch Hu dépend d'abord et avant tout d'un acte moral. Que j'ai décidé de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que je fais Torah au mitzvot. Pas simplement, j'ai dit une phrase magique et pouf! Donc, celui qui est l'ochesh à la maca et qui se sert, entre guillemets, de la Torah en mode pouvoir magique, va d'ailleurs l'ochelek l'olamaba.
c'est pas une sorte de tefila. La tefila aussi, c'est une sorte d'incantation envers Akadosh Baruch Hu de demander de faire des choses que j'ai envie qu'il fasse.
Alors, quand quelqu'un il se fait une entorse, d'après la Torah, qu'est-ce qu'il doit faire ?
Chez le médecin.
Eh ben voilà. Il doit aller chez le médecin. Et quand il est chez le médecin, il doit faire des tehillim pour que le médecin il lui fasse pas plus mal que ce qu'il a déjà. Mais il doit aller chez le médecin. C'est-à-dire que c'est pas de la magie. Même la tefila, c'est pas de la magie. Même quand je fais la tefila pour la refoua de quelqu'un, ce n'est pas du tout à la place des efforts médicaux qu'on doit faire. Ça a l'air ? C'est à l'ochesh à la maka. C'est, il pense qu'en faisant une incantation, ça va marcher. Genre, la Torah n'est pas une valeur morale, mais c'est de la magie. Ok ?
Il y a plein d'incantations hein, dans les Rabbi Meir, retrouve-moi ça, aide-moi à retrouver mon truc que j'ai perdu, etc. Les incantations d'Abba. Les bougies.
Est-ce que j'entendrai une espèce de bicorette par rapport à certaines personnes du peuple juif ? Serait-ce ce que je suis en train d'entendre ? Hanachlaem le Israël ! Hanachlaem le Israël ! Agave, cette incantation, comme tu dis, de Rabbi Meir, c'est marqué dans le Talmud. Et cette incantation du Talmud, elle nous rattache en fait à la base, au Maasé de Rabbi Meir. Donc quand on dit « Dieu de Rabbi Meir, aide-moi », c'est uniquement quand c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ma capacité à faire les choses. C'est-à-dire que si j'ai, comme on dit, j'ai perdu quelque chose, et quand on dit « Dieu de Rabbi Meir, aide-moi »,« Elaha de Rabbi Meir aneni », c'est pas que je suis assis sur le canapé et que j'attends que l'objet me tombe dans les mains. C'est que je suis en train de chercher. Et en même temps, je demande à Dieu qu'il m'aide. C'est-à-dire, je suis en train de chercher.
Tu m'as tendu la perche. Alors, on va parler de Shlomo Karloba.
Dis-moi.
Non, mais en une phrase, je suis obligé, je ne sais pas quoi.
Bien sûr.
Non, on a l'El Chagidi à Chevron à chaque fois avec notre choule de Karloba. Et donc, j'étais à Chevron il y a quelques années avec la choule et je ne retrouve pas mes clés de voiture. Et tout d'un coup, je me rends compte que je ne les avais pas sur moi. Oh là là, c'est un problème. Il y a quelqu'un qui me dit bon, on m'a dit la cantation de Rabbi Meir, net, c'est tout. Je le dis et tout. Et j'en trouve pas pour autant la clé.
T'as pas traîné le lama bas, juste que tu sais.
Je sais. Attends,
non, mais il y a une dérogation pour les. Il y a une dérogation pour les Marocains, c'est ça d'ailleurs.
Attends, enfin, qui prie chez les Ashkenaz. Donc j'avais. J'étais curieux parce qu'on avait commencé le Hallel et c'est le meilleur moment de la tila avec tous les chants et la Shlomo, la guitare et tout ça. Il y a quelqu'un qui me dit très habilement, écoute, t'es venu pour ce Hallel, t'es venu pour ce Moussaf, concentre-toi, profite de la tila, t'es à Chevron, il va rien se passer, tu retrouveras tes clés. Bon, bah, j'ai fait ça et à la fin, make the long story short comme on dit, après la gouchée à Dimoussa, je me suis dit, moi, je vais quand même redescendre voir la voiture. Bon, la clé était sur la voiture, allumée, comme il faut, ouverte. Dans le parking de Chevron.
Il y a fait.
Voilà.
On va dire qu'heureusement que ta voiture elle était sur le parking de Chevron et pas dans un parking à Tel Aviv.
Oui, parce qu'à Chevron.
T'aurais pas eu de voiture, t'aurais pas retrouvé ni les clés ni la voiture à Tel Aviv. Mais ça,
exactement.
Nounou. Donc voilà, à l'Orech à la Maka. C'est celui qui a une ashkafat olam magique. Voilà, évidemment qu'on peut retrouver ça dans tous ceux qui vendent des sgoulottes toutes les 5 secondes. Sgoula pour ci, sgoula pour ça, et machin. Et celui qui a une ashkafat olam, que toute sa relation à Dieu, elle passe par ça, ben, zvadaï que en nochelek l'olam abba. Et ensuite, on a le dernier, Abba Shaul Omer. Af ha'oge et Hashem be'otiotav. Celui qui épelle le nom de Dieu par ses différentes lettres. Et celui-là, on peut se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi il n'ochel eklo lamaba, oge et Hashem beotiotav, kilou makara ? Shem shel mishéou, le nom de quelqu'un, c'est son objectif. Celui qui épelle le nom de quelqu'un, c'est qu'il pense que cet objectif, il est capable de voir également les sous-objectifs qui sont derrière. Je m'explique. Chez les Mekoubalim, il y a des Sidourim où chaque lettre, en fait, elle est écrite avec le mot de la lettre. C'est-à-dire que Aleph, il est écrit Aleph, Lamed, Vav, Pei. Ou sans le Vav, l'homme jané. C'est-à-dire, ils écrivent Aleph. Beit, c'est écrit Bet, Yud, Tav. Et ainsi de suite. Ok? Et au niveau des gématriotes, ça fait plein de choses différentes, et des cavanotes, et ce que tu veux. Avalatalo au gué. C'est-à-dire que tu peux l'écrire, tu peux y penser, mais tu ne le dis pas. Pourquoi? Parce que miata bichlal, que tu penses que tu connais les dessous des cartes, les dessous des volontés d'Akadosh Baruch Hu. Zechutzpa atsuma de celui qui est Oget Hashem Beoti Otav. Il se prend en fait pour Dieu. Et il pense que lui, il sait exactement quel est non seulement l'objectif du dévoilement divin, mais en plus les sous-objectifs. Donc à Oget Hashem Beoti Otav, Bevadai Shen Nochelek Lola Maba. Et en fait, quand on fait le résumé de tout ça, eh ben on se rend compte qu'on a trois qui n'ont pas part au monde futur, et encore trois. Et quand on fait bien le rapprochement, on se rend compte qu'en fait, que les trois premiers sont les bases et les trois seconds sont des nixarot, sont des branches qui se séparent du tronc de base. Par exemple, celui qui dit « En teriyat ametim mina Torah », eh ben ça ressemble à celui qui est « Oget Hashem Beoti Otav », puisqu'on essaye de rentrer dans eh bien la réalisation de la volonté du Créateur. Celui qui dit en Torah min haShamayim, il ressemble à celui qui est Koré Basfarim Achitsonim, puisqu'en fait, il ne sait pas ce que c'est, un sefer de Nevoa ou pas de Nevoa. Et celui qui dit Apikoros, c'est celui qui ressemble au Lochesh à la Maka, celui qui pense que le monde c'est magique et il n'y a rien à voir avec la relation morale avec Dieu. Donc en fait, on se rend compte que tous ces gens-là, Bevadai she'en laem chelek leolam haba, mais ce n'est pas tant que c'est une punition, c'est qu'ils se sont mis dans un monde qui ne permet pas l'optimisme de l'éternité. Vous inquiétez pas, le Talmud, il va les faire tous rentrer quand même par la porte de derrière, Olam Haba. Mais l'objectif de base, c'est de nous montrer, voilà, tu veux savoir, Kol Israël Eshlem Chelek L'Olam Haba, Nachon. Cela, même si à la fin on les fera rentrer, voilà ce qui peut t'empêcher d'atteindre le Olam Haba. Cette dimension-là d'éloignement de l'idéal du judaïsme. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on peut se préparer à nous rentrer dans la deuxième Mishnah, il n'y a pas de Gemara, directement à la deuxième Mishnah, qui vient nous dire, bah, tu sais quoi? J'ai des exemples à te donner de gens qui sont les gens qui n'ont pas part au monde futur. Et en fait, grâce à la deuxième Mishnah, on va pouvoir commencer à rentrer dans les Haggadotes de ce qu'ont fait ces gens-là pour nous expliquer en vérité pourquoi est-ce qu'ils ont, oui, quand même part au monde futur, tous, sauf un, mais ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. À bientôt, les amis.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.